Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un ?
Oh oui, et un beau.
Mais vous êtes fou !
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici. C'est évident.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
C'est un fou. C'est pas normal. Il n'est pas comme nous.
Les anormaux, quoi. Les anormaux. Les entonnoirs.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal. J'ai un coup de gueule à passer.
Mais faites quoi, on fait notre émission de radio,
ouais,
et ouais. Quoi.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non mais c'était un con, là.
Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
En se posant des questions.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à l'émission 260 des Entonnoirs, aujourd'hui présentée par Bruno et Tahar. Alors au sommaire, nous allons avoir la chronique musique de Roger Lucien, ensuite un interview de Detlef, puis la pause musicale de Malika qui nous présentera un titre de Culture Club qui s'appelle Time, puis une chronique de Laure. Et puis, la chronique de Johan, la radio numérique.
Ensuite, on aura l'interview de Marine Place, qui est une réalisatrice qui fait un reportage sur les entonnoirs. Ensuite, un poème de Bruno, qui va nous... C'est l'interrogatoire, je crois, c'est ça
l'interrogatoire.
Interrogatoire. Et ensuite, une pause musicale de Margot avec Whitney Houston.
Alors maintenant, nous allons commencer avec la chronique de Roger Lucien.
Bonjour, chers auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, nous allons prendre la direction de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément de la Côte d'Ivoire, où nous allons écouter une chanteuse ivoirienne qui nous interprète Chilène Coé.
Et donc c'était une musique de Roger Lucien qui nous a fait rêver, voyager à travers l'Afrique comme d'habitude. C'est toujours un choix d'excellence, on te remercie. Et maintenant nous allons passer à l'interview de Detlef. Alors Detlef, je sais que vous êtes artiste peintre. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Detlef et je participe à une exposition qui s'installe pour le moment à la condition publique. On installe ça de aujourd'hui à jeudi. Jeudi, ce sera le vernissage, jeudi 24 mai. C'est une exposition qui va rester pendant un mois et c'est au sujet d'un travail qu'on a fait, qu'on fait ou qu'on espère de pouvoir continuer à faire ici à Roubaix, dans le quartier Cutefour, avec le jeune du quartier, avec les habitants du quartier, par rapport à la situation actuelle dans les quartiers, la vie de tous les jours, aller à la découverte de ce qui s'est passé ici avant, ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire on est parti voir ce qu'on appelle la culture populaire de qui existait ici avant, comme le jeu de bourle, le colombophile, la pêche sur les canals. On est même allé voir combat de coq, mais ça c'est pas vraiment ici à l'endroit même, ça se fait assez rare maintenant, mais on est allé avec le jeune voir ce genre d'événements et qu'on a découvert nous-mêmes, parce que c'est pas que nous on montre, voilà, on sait ça, on connaît ça, non, on va à la découverte, on découvre en même temps avec eux ce qui s'est passé ici, ce qui se passe encore et que qu'on espère que ça va se savoir, que toutes ces associations qui font énormément de choses. Par exemple, les anciennes de la Tossé, l'ancienne quartier de l'Union, il y avait les usines où les gens travaillaient, tous les gens de la région, ils avaient du travail ici. Maintenant, voilà, il y a plus grand chose comme travail ici, et c'est ça qui manque aussi aux jeunes. Et
d'après ce que, excusez-moi, votre prénom,
mon prénom c'est Detlef.
Detlef. Detlef, oui. Je vous fais allusion au combat de coq. Il y a un très beau tableau au musée de la piscine qui s'appelle Le combat de coq de Rémy Coge. Oui. Donc vous me faites passer à ça. Donc voilà, donc ça a marqué Roubaix quand même. Hein, donc voilà. Quoi. Oui, oui. Et deuxièmement, il y a un vernissage, c'est qu'on va être verni, donc automatiquement. Et moi, ce que j'aime bien, non, dans le sens, je vous dis ça, on va être verni, dans le sens où moi, j'applaudis de plus en plus d'artistes travaillent sainement dans le milieu populaire, parce qu'ils se rendent compte que finalement, si l'artiste se coupe du peuple, être un artiste de salon ou de parade, enfin...
Exact, tout à fait, c'est un peu ça les buts, si on peut parler d'un but, parce que c'est un chemin, c'est le but en fait, il n'y a pas de but, il y a un chemin, et le chemin, plus qu'il est long, plus qu'il est intéressant, c'est mon point de vue, hein. Chacun peut avoir un autre point de vue, et voilà, par exemple, la peinture, moi je suis peintre, mais c'est une partie de ce qui se passe, parce qu'il y a un autre artiste, compositeur, musicien qui a participé, qui a enregistré de sons pendant les activités qu'on faisait. Il a enregistré les voix de personnes qui parlaient, les jeunes, les gens du quartier, les gens des associations. Il nous a préparé une bande son que je vais découvrir en même temps que le public au vernissage, le jour où tout est mis ensemble. Il y a un journaliste, il y a une ethnologue qui était sur le projet, qui ont parlé, discuté. Il y a un photographe, il a pris des photos avec le jeune. C'est tout un ensemble qui va être montré. C'est pas une question, voilà, il y a un peintre qui expose. C'est pas du tout ça. C'est un ensemble. C'est l'ensemble qui a un sens. C'est pas les peintures tout seules qui ont un sens.
Oui, là, dans le petit carton que je vois, là, pour nous sensibiliser un petit peu à ce que vous faites, je vois qu'il y a un projet, en fait, dans un projet. Le projet Pop, qui est dans un projet, qui est le silence des
Tiresias.
Et alors là, j'aimerais être un peu plus éclairé. Bon, Pop, vous dites que c'est pour un observatoire populaire. Ça, je peux comprendre. Mais c'est quoi le silence de Tiresias? Et en plus,
c'est une vieille légende grecque qui est assez compliquée. Je ne vais pas m'aventurer à raconter là. Mais en fait, ça, c'était le départ de l'idée de Pascal Marquilly, qui est à l'origine du projet, qui est un des fondateurs du groupe Anonyme. Et qui a plusieurs projets en même temps dans ce projet Le Silence des Tirésias. Ça, c'est un des projets. Il y en a d'autres à la Maison Folie de Boisem, d'autres à Moulins. Et ici, c'est la condition publique.
Plusieurs quartiers, vous interpellez. Mais plusieurs quartiers.
Moi, je suis ici.
Vous êtes à condition publique. Voilà. Ce qui est assez remarquable, c'est que vous preniez, qui est pris dans ces projets, ce sont des quartiers qui sont pas franchement gâtés par la vie, quoi.
Ben, c'est justement pour ça. Donc,
c'est intéressant.
Justement, comme disait monsieur, que l'art, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose si on le trouve toujours qu'est dans le salon?
Ah non, non. Hein?
Parce que, voilà, dans le salon, on achète peut-être les tableaux, on les regarde peut-être en mangeant un bon steak, mais c'est tout. Mais il n'y a pas la vraie vie qui intervient. La vie, c'est pendant qu'on fait, pendant qu'on se prépare, avant de faire. Tout ça, c'est pour moi, en fait, l'art, c'est la vie, c'est une manière de vivre. C'est pas spécialement ce qui est après accroché. Ça, c'est les résultats de tout un processus.
Johan, tu avais une question ?
Ben non, c'est pas une question, c'est juste pour présenter le deuxième invité qu'on a autour de la table, qu'on n'a pas présenté à l'antenne.
Ah oui, c'est Kevin. Pas mal.
Si tu veux te présenter peut-être rapidement.
Ah, bonjour tout le monde, bonjour public.
Ça va agir aussi.
Ben voilà, je me présente, je m'appelle Kevin, donc je suis un jeune issu du quartier Cul-de-Four. Donc avec le groupe anonyme, nous avons monté ce projet qui nous a très plu parce que c'est vrai que les gens ils voient plus le quartier qui était avant. Maintenant ils voient ce que c'est, les jeunes, comment ils vivent. Et donc grâce à eux, ben on peut faire voir aux autres que malgré qu'il y avait tout ce côté chaleureux avant, ben on l'a aussi maintenant, pas sous les mêmes conditions, mais. Mais voilà, donc en espérant que dans l'exposition, vous allez pouvoir venir et voir que nous avons travaillé dessus, surtout l'équipe, comme m'expliquait Detlef. Donc le son, l'équipe qui était là pour nous encadrer, Detlef au niveau peinture. Et si je peux me permettre, je les recommande pour tout autre projet, pour tout autre quartier qui souhaite faire un projet comme ça. Voilà.
J'ai une question parce que, alors en fait, on voit bien le point commun entre le jeu de bourre et le bowling, entre les pigeons voyageurs et le téléphone portable, mais qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre le combat de coq et le graphe? Parce que,
ouais. Bon, entre le combat de coq et le graphe, ben, combat de coq, c'est un combat, voilà, pour celui qui gagne, et quand comparé à un peintre, ben, son combat, c'est de bien réussir sa toile, finaliser, l'expression qu'il veut lui donner, et ça c'est très difficile pour, je pense, pour un peintre de ce niveau-là, surtout sur des grandes toiles, et ça demande beaucoup d'heures de travail, quoi.
Je pensais que c'était pour la trace de sang que ça laissait par terre.
Je voulais pas en venir pour pas choquer des auditeurs, quoi.
Non, mais justement, je voulais juste dire ça, que voilà, dans les combats de coq, il y a cette histoire de marquer des points, par là, c'est par le sang, mais ceux qui font du graffiti, ils marquent des points en mettant le plus possible ou dans des endroits les plus difficiles. Là, je parle pas de moi, hein, c'est les graphes, c'est les jeunes. C'est pas, moi, je fais pas... J'ai faim. Merci. Voilà, c'est un peu ça aussi. Ils font les coqs parce que c'est moi qui ai mis là, à tel endroit, autant, où je suis là, où il est très beau, il est très grand, il est très haut. Voilà, c'est comme ça que je vois les graphes, quoi.
Et moi, je voulais vous demander un petit à vous et comme à monsieur,
à Kevin.
Dans quel style vous vous situez par rapport à la peinture? Est-ce que c'est de l'art brut? Est-ce que c'est de l'art moderne? Qu'est-ce que vous essayez d'enseigner, de présenter pendant cette exposition, enfin artistiquement, quoi, avec vos couleurs, vos formes, vos...
Ah, c'est une question. Assez difficile à répondre.
Collez à la réalité?
Je pense que dans cette exposition-là, j'essaie de coller le plus possible à la réalité. Vous allez me dire après, quand vous aurez vu l'exposition, si c'est juste ou pas. Mais mon style de peinture, c'est très difficile à expliquer. C'est un peu compliqué parce que c'est un mélange de plusieurs techniques. Il y a un petit côté méditatif, parce que si je me lance maintenant dans les trucs techniques, je ne sais pas si c'est bien. Je travaille avec des caches, mais des caches qui sont faits en copeaux de bois, et je pistole sur ma toile qui est clouée au sol, je marche sur la peinture, c'est des peintures qui font 2 mètres sur 2. Et c'est une technique, ça rejoint un peu, je ne sais pas si vous connaissez, il y a les Tibétains ou les Indiens Navajo dans le sud des États-Unis, au nord du Mexique, qui font des peintures au sable, qui font mettre des formes en place avec du sable.
C'est des mandalas, non ?
Et oui, voilà. Et alors, moi, je fais ça par rapport à un motif qui m'intéresse. Dans ce cas-là, c'est des motifs liés aux activités qu'on a fait avec les jeunes ici dans le quartier, dans la région. Mais du coup, ça, comme c'est un travail à partir des caches, du coup, j'ai cache de plus en plus. C'est ce que j'ai fait. Je rajoute des couches, et plus que j'avance avec ma peinture, moins je vois ce que j'ai fait en réalité. C'est dans la tête. Et du coup, j'ai toujours besoin de travailler à partir des photos. C'est-à-dire, ce que vous allez voir en peinture en grand, c'est à partir des photos qui étaient prises par le photographe pendant les activités qu'on a fait. Les seules choses auxquelles je peux m'accrocher, c'est ces photos, voilà. Et du coup, j'essaye d'être, par ma technique qui est faite avec, ça donne un grain, les copeaux de bois, ça donne un drôle de grain, mais en même temps, ça donne une impression des réalités de loin et on se rapproche, ça devient abstrait. Justement pour répondre à cette question du départ, art brut, art abstrait, art où je me situe. De près, ça fait très abstrait. Et de loin, ça devient de plus en plus réaliste, proche d'une photo. Voilà. Ça, au sujet de la technique, c'est un peu long peut-être, mais...
Roger Lucien.
Moi, j'ai 2 questions à vous poser, Detlef.
Oui.
C'est bien ça.
Oui, c'est très bien.
Donc... La première, c'est, j'aimerais savoir quels sont vos supports, sur quels supports vous faites votre peinture, les différents supports. Et la deuxième, j'aimerais savoir quel est votre avis sur l'art rupestre ancien.
Alors, le support, c'est des toiles de coton, que je dois encoller d'abord, bien tendre. Ils sont cloués au sol, comme j'ai expliqué, je marche sur les toiles, je travaille sur des toiles qui sont au sol à plat. Parce que je travaille avec du jus, avec des encres, et voilà, il faut pas que ça dégouline. Si c'est, je peux pas faire ça sur un chevalet, c'est au sol, des toiles en coton. Et l'art rupestre,
ancien.
Oui, ancien, ou même si ça se fait encore maintenant, j'adore l'art rupestre. C'était un de mes premières références, je trouve ça fabuleux. Je ne sais pas si on a vraiment pu rajouter grand-chose à ce qui se faisait à l'époque, si on a dépassé ça, parce que c'était tellement juste. Mais il y avait quelque chose, il y avait quelque chose d'autre en plus qui manque de foi dans ce qui se fait maintenant, quoi. Et un côté, je sais pas, c'est lié à une cérémonie. Les peintures rupestres, c'est une cérémonie, on se prépare à une chasse, on se prépare à quelque chose. Et maintenant, souvent, les artistes, ils se préparent juste pour leur tableau. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce projet. On se prépare pas juste pour le tableau, on se prépare par toute une vie d'un quartier, par exemple. Voilà. Mais voilà, je ne sais pas si c'est une réponse.
Oui, c'est bon.
Marianne. Pour vous, ça signifie quoi la culture populaire aujourd'hui?
Pour moi, aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie, la culture populaire? Parce que c'est vrai qu'on est un peu à la recherche de la culture populaire du passé. On a posé au centre social à des jeunes, plus jeunes que ceux avec lesquels on a travaillé, la même question. Qu'est-ce que c'est pour vous aujourd'hui? On a entendu souvent les centres commerciaux, le fast-food, les lieux de rencontres de ce style-là, c'est ce qui nous a au début un peu fait bizarre, mais en se baladant avec le jeune dans le quartier, on voit les quartiers, on se dit, c'est vrai que c'est terrible. Oui, il y a des terrains de foot qu'on a installés, mais un terrain de foot qui fait très vivant au milieu de quelque chose où les boulangeries sont fermées, les cafés sont fermés, c'est... La culture populaire, c'est comme, je ne sais pas pourquoi et comment elle a en quelque sorte disparu. Je parle de ce quartier-là, dans ce quartier précis, C'est pas parce qu'on installe un jeu de foot que c'est la vie, c'est très bien qu'on l'a fait, mais la question que moi je pose, j'arrive pas bien à répondre, est-ce que c'est pour moi, parce qu'en pensant à ce quartier. Mais ma question comme réponse sera pourquoi être arrivé à un quartier où il y avait énormément de magasins, de lieux de rencontre, pourquoi tout est fermé et pour quoi faire pour que ça change?
Bon.
Pour que la culture populaire peut revenir.
Vous pouvez peut-être nous rappeler les dates de l'exposition, alors?
Alors, le vernissage, c'est le 24 mai, c'est jeudi, jusqu'au 22 juin. Et il faut faire attention parce que sur l'invitation de la condition publique, il est marqué des mardis à vendredi, l'ouverture, et non, c'est des vendredis, des mardis à samedi. C'était 14 à 18 heures.
Merci.
Jusqu'au 22 juin.
Ben, voilà. On vous remercie d'être là et merci à vous, monsieur.
De rien.
Merci.
Et maintenant, nous allons passer à la pause musicale de Malika qui va nous présenter un titre de Culture Club.
Yeah. entonnoirs.
On enchaîne avec la chronique de Laure sur les bouteillonnes.
Bonjour à toutes et à toutes. Je m'appelle Laure, j'étais venue il y a quelques temps pour vous faire partager mon expérience en Espagne, à Cadiz. À Cadiz. Et là, je voudrais vous parler d'un phénomène assez important qui s'appelle le botellón, et qui signifie grande bouteille, qui est arrivé en Espagne dans les années 80. Donc, ce sont des jeunes qui se réunissent à la plage ou sur des parkings et qui boivent toute la nuit.
Bah, c'est quoi ton ressentiment par rapport à ça? Ça te choque?
Bah, moi j'y ai participé donc.
Bah, d'accord, ok. Bah, c'est pas grave alors, justement.
Et c'était comment alors? Comment tu l'as vécu?
Bah, c'est surprenant quand même parce que c'est la première fois, enfin, en France, les jeunes à minuit, 1h du matin, on les voit pas dans les rues, enfin, il y a plein de monde, c'est impressionnant, quoi.
Est-ce que tu sais comment ça est arrivé, ce phénomène, en Espagne, le fait de boire dans la rue? Pourquoi ils sont mis à boire comme ça dans la rue à un moment donné?
Bah, c'est les classes ouvrières, comme les jeunes n'avaient pas assez d'argent pour acheter des boissons dans les discothèques. Ils achètent des boissons dans les drogueries, quoi, et ça leur coûte moins cher. Voilà.
Et c'est vrai qu'il existe les apéros avec les réseaux sociaux. Mmh. Et donc là, c'était avant les réseaux sociaux. Donc ça se faisait comment, ce rassemblement? Comment les gens arrivaient à communiquer? Donc par quel système ils arrivaient à se rejoindre? Parce qu'il y a des rassemblements importants. Jusque combien de personnes ça peut aller?
Bah, jusqu'à 200 à peu près.
Voilà. C'était quoi, par texto?
Ah, je sais pas ça. Non, je sais pas.
Ouais. Et tu penses que ce phénomène a touché la France, d'autres pays?
Oui, la France et la Grande-Bretagne, la Suisse.
Peut-être une question.
Oui, non, c'était juste pour rajouter un petit peu, ça existe en Bretagne notamment. Ils se réunissent beaucoup en Bretagne, les places rue de la Soif, c'est très drôle.
Oui.
Ils font ça et ça dure toute la nuit.
Dans un sens, ça rejoint un petit peu ce dont on parlait précédemment et tout ça. C'est bon, on essaye d'avoir une vie ailleurs, autrement, peut-être moins stéréotypée. Se rassembler entre jeunes, c'est super chouette. Ouais. Bon, en plus, si les autorités disent pas trop autre chose.
Bah, ils essaient de mettre des moyens en place, mais il y a des critiques, des revendications. Donc
ils partagent, là, les jeunes, ils font quoi? Ouais. Bon, après, bon, c'est vrai que si.
Ils boivent,
Ils boivent. À TF1, ils ont dit que c'était dangereux. Hein.
Ouais. Ils boivent beaucoup.
On a tous des comportements dangereux. Regarde. Bah, allez.
D'accord. Ben, on te remercie, Laure, pour ta chronique. Et nous allons passer maintenant à celle de Johan qui va nous parler de la radio numérique. À toi, Johan.
Juste rappeler la mention légale quand on parle d'alcool. Faut dire que ça a consommé uniquement en grande quantité. Non.
Non, mais
avec modération, avec modération. Faites attention, les jeunes.
Mais avec délectation.
Avec délectation.
Ouf. Non, ça a consommé avec modération. C'est une mention légale à préciser dès qu'on parle d'alcool. Bon, ma chronique, c'est sur la radio numérique. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est, la radio numérique?
C'est quand on appuie sur des boutons.
C'est le futur de la radio actuelle. Actuellement, c'est analogique et après, ça sera numérique comme la TNT pour la télévision.
Ouais, c'est ça. Ça va être la RNT, la radio numérique terrestre. Et donc, en fait, la bande FM, elle va disparaître. Donc, si tu t'as acheté une chaîne IFI avec un tuner FM il y a pas longtemps, eh ben, elle servira à rien puisqu'il faudra une radio numérique. Mmh. Alors, est-ce que vous savez ce que ça implique, tout ça, en fait?
Non, explique-nous.
Il va mettre de la pub sur des écrans.
Mais déjà, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu la télé numérique?
J'imagine que ça va obliger les gens à avoir une nouvelle radio et aux diffuseurs à avoir des nouveaux émetteurs, enfin, entre guillemets.
Ouais, tout à fait, des nouveaux émetteurs, ça c'est important. Ben, tu me corrigeras si je me trompe. En fait, il va falloir louer pour les radios, on va parler des radios associatives comme RCV, Radio Goumang. Il va falloir louer ce qu'on appelle un multiplex, donc c'est une sorte d'antenne, une grosse antenne pour la radio numérique. Et en fait, le problème, c'est que pour louer ces antennes, à l'année, ça coûtera 16 000 euros. Alors qu'actuellement, ça coûte, je sais pas un émetteur combien ça coûte à l'année en ce moment, mais c'est incomparable. Vas-y, va te dire micro.
Oui, actuellement, c'est pas cher. Disons que c'est un émetteur amorti sur plusieurs années et ça peut durer pendant plein d'années. Mais en tout cas, on n'est pas à des coûts de 16 000 euros par an.
Ouais, et là, en fait, ouais, il faudra louer, en fait, les nouveaux émetteurs pour la radio numérique, il faudra les louer chez des privés, quoi, en fait. Donc, ça coûtera 16 000 euros à l'année. Sachant qu'il y aura des zones de diffusion. Dans la région, il y en aura trois. Et en fait, il y a certaines radios qui se retrouvent entre deux zones. par rapport à leur zone actuelle. Donc ils vont devoir louer deux multiplex. Donc ça leur coûtera 16 000 euros fois 2. 32 000 euros. Vas-y, t'as une question ?
Par rapport à ce que tu viens de dire, j'aimerais savoir si cette évolution est indispensable pour...
Je sais pas si elle est indispensable, mais elle est dangereuse. Elle est dangereuse.
Bah, c'est pas une question de savoir si elle est indispensable ou pas, c'est une norme européenne maintenant, ça va être pareil dans tous les pays d'Europe, donc la France n'a pas le choix, comme pour la télé, et ben la radio ce sera numérique. Donc pendant plusieurs années, toutes les radios devront émettre à la fois sur la bande FM hertzienne habituelle qu'on connaît depuis toujours, et sur les fréquences numériques. Donc il n'y aura pas simplement une multiplication des coûts, on va devoir aussi cumuler les deux coûts d'émission pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'ils décident d'arrêter la bande hertzienne en fait.
Alors, oui, Detlef.
J'ai juste une question. Qu'est-ce que ce sera l'avantage ?
Je crois qu'il y aura plus de stations.
À part bien sûr, que voilà. Certains vont gagner de l'argent avec.
L'avantage, c'est qu'un mec au CSA, il aura lancé le projet, il aura fait aboutir le projet. C'est Rachid Arab, si je crois qu'il est au CSA, qui a accroché à ce projet. Vas-y, Ben.
Bah en fait, oui, il avait lancé ça, il voulait absolument que ce soit fait avant son départ fin 2012, et comme il s'en va fin 2012, et ben là, il y a gros coup de speed, de tout le monde est obligé de passer au numérique avant fin 2012. Ouais. L'avantage, c'est que le son, soi-disant, est meilleur. Il paraît que c'est vrai, j'ai pas eu l'occasion de le constater par moi-même. Et l'autre avantage, c'est que on va pouvoir, enfin en tout cas je dis nous ou pas nous, mais les radios vont pouvoir doubler leurs recettes publicitaires, puisque sur les postes de radio numérique, il y aura des petits écrans, soi-disant pour mettre les photos dans les studios des animateurs ou je sais pas quoi, mais on sait très bien que la plupart des radios commerciales utiliseront ces écrans pour balancer des messages de pub. Voilà l'intérêt.
Alors le danger pour une radio comme Radio Boomerang et RCV, c'est que au niveau du budget annuel d'une radio, comme il n'y a pas de publicité, ben c'est pas énorme. Et donc avoir une nouvelle dépense dans le compte, c'est-à-dire 16 000 euros pour louer à l'année le multiplex pour émettre, c'est en fait ça signifie la mort quasiment de certaines radios. Hein. Donc c'est très dangereux. C'est comme d'habitude tout ce qui, enfin moi je considère que c'est comme d'habitude avec l'État français, avec l'Europe. Tout ce qui, ben, s'ils n'ont pas dans la culture marchande, publicitaire, c'est en danger. Et ça, c'est depuis des années. Tout est en danger. Même la culture, tout ce qui n'est pas dans la culture officielle, donc je tiens l'alarme. Vas-y.
Ils feront autant de tintouins en publicité pour qu'on passe d'un réseau à un autre?
Ben, sûrement. Après, faut voir si ça se fait ou pas.
Parce que si on dit que ça fait fin 2012, moi, j'étais pas au courant, ouais. Il reste pas grand monde, hein.
Oui, mais vous avez pas compris que c'était bientôt la mort des radios associatives, si
bon,
ça
c'est
passe.
Pas grave, non, c'est la fin du monde.
Ça va se faire petit à petit. Par exemple, les constructeurs automobiles, je pense qu'à partir de janvier 2013, ils seront obligés de mettre des postes de radio numérique, dans les nouveaux véhicules construits. Enfin, il va y avoir des normes comme ça, imposées et obligatoires.
Mais vous pouvez déjà
acheter, tu peux déjà aller dans un magasin et acheter un poste de radio numérique, ça existe déjà. Mais c'est hors de prix.
Bientôt en Europe, il y aura le contrôle de la pensée, donc tout ce qui est radio libre, tout sera contrôlé. Donc c'est pour ça qu'un numérique, c'est non, cette connerie pour dire que finalement l'Europe, il y a vraiment un déficit démocratique. Quoi. Quelque part, il y a une soviétisation des esprits, voilà.
Et moi, alors une américanisation.
Mm-hmm. Et moi je voulais dire, enfin nos anciens postes, qu'est-ce qu'on va en faire ? Il faudra les jeter ou il y aura un adaptateur ?
Poubelle.
À la poubelle carrément ?
Ben, je sais pas.
Alors, allez savoir, peut-être que certaines radios continueront à émettre de manière pirate sur les anciennes bandes de fréquences FM et que vous pourrez peut-être toujours utiliser vos vieux postes de radio pour écouter des radios pirates, allez savoir. Ouais. Ça, je dis rien. Hein, mais...
D'ailleurs, on cherche un bateau. Eux, pour aller sur le canal de Roubaix.
J'apprécie la remarque de notre invité aujourd'hui. C'est parce qu'il disait que je parlais de sovietisation d'esprit. Il parlait aussi à juste titre d'américanisation d'esprit. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de cuisine nouvelle manière pour imposer à Big Brother. Enfin, voilà.
Imposer à Big Brother, il y a surtout le rêve américain qui est imposé en France depuis des années. Hein. Faut rêver à l'américaine. Hein. Vous êtes pas d'accord? Venez, on chante l'hymne américain. Non, mais on est quand même dans l'American Way of Life. Il faut deux, trois bagnoles, il faut des écrans plats, il faut faire le déco du salon.
Il faut la faillite des banques aussi.
Ouais. Ouais, ça va arriver. L'année dernière, je l'ai annoncé, c'est bientôt. Ouais. Bon, ben voilà, c'est ma chronique, alors je vous demande tous de me dire merci.
Merci, Johan.
De rien.
Les entonnoirs.
Bon, bah, merci, Johan, pour ta chronique sur la radio numérique.
Mais de rien.
On va passer à l'interview de Marine Place, réalisatrice d'une émission sur les entonnoirs. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, donc je suis en effet réalisatrice et ça fait presque 2 mois là que je vous filme.
Oui. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur le film que vous voulez faire ?
Alors, en fait, la première fois que je suis venue ici, j'étais vraiment impressionnée de la qualité de l'émission. Je dois me rapprocher du micro parce que j'ai pas du tout l'habitude, moi, d'être, d'être filmée ni d'être à la radio. C'est la première fois. Donc, la première fois que je suis venue, j'étais assez impressionnée de, voilà, de la qualité de l'émission, des chroniques et surtout des débats qui existaient entre vous. J'étais touchée par l'existence des entonnoirs et j'ai eu envie de le filmer. Et j'ai eu envie de faire un film sur, on va dire, pas un reportage rapide en venant une journée, mais un film sur le long cours, en essayant de venir... Non, ça fait combien de temps que je viens ?
Ça fait 2 mois, il me semble. Il me semble
que
ça fait 2 mois.
Que je filme, mais ça fait peut-être
un an et demi. Ouais.
Johan,
est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ?
Mon parcours. Donc, j'ai pas vraiment fait d'études de cinéma. J'ai fait un bac, plus un doc de lettres à l'époque, en suivant un peu Filmo à Lille. Hein. Je suis de Lille. Et ensuite, j'ai écrit un court-métrage que j'ai réalisé. J'ai trouvé une maison de production et ça m'a lancé dans l'arène. Hein. Et petit à petit, j'ai appris sur le tas. C'est-à-dire, on m'a proposé un autre film et j'ai décidé de le faire sans vraiment savoir si j'allais réussir à le faire. Et puis, je l'ai fait. Et au fur et à mesure, ça m'a fait apprendre. Et ensuite, petit à petit, donc on m'a redemandé des films, j'ai refait des films, et petit à petit, j'ai réussi à faire des films que j'avais envie. Et Les Entonnoirs, c'est un film que j'avais envie de faire. Ce n'est pas une commande qu'on m'a demandé de faire.
Et pourquoi Les Entonnoirs, justement pourquoi non, ce n'est pas une commande, c'est un choix personnel. C'est ouais. Après avoir vécu un petit peu avec Les Entonnoirs que vous avez décidé de faire ce film, quoi,
ouais.
C'est ça.
Oui. Tout à fait.
Pourtant, il y a plein de projets qui peuvent mûrir à travers votre expérience de réalisateur.
Tout à fait. D'ailleurs, je fais plusieurs films, d'ailleurs, presque en même temps, là. Donc, j'ai plusieurs films en cours. Pourquoi Les Entonnoirs ? Parce que j'étais, le mot le plus simple, c'est que j'étais touchée. Il y a 2 choses. J'ai l'impression que déjà j'étais touchée personnellement, mais ça, je vous avais expliqué. J'avais un ami qui avait été touché très prématurément, je dirais, par la schizophrénie, et j'ai été très impressionnée. Je savais même pas quoi faire à l'époque de tout ça, des délires. Et donc ça me touchait, le fait que ce soit des gens en maladie qui ont une maladie mentale qui exercer. Et puis au fur et à mesure de tourner, j'ai vraiment appris énormément de choses. Combien vous m'avez appris pendant ces 2 mois,
Florent? Et vous faites ça depuis combien de temps, en fait? Combien de temps
Ça fait 15 ans, je pense.
15 ans
J'ai commencé, j'avais... Ouais, 15 ans.
Une question. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans l'esprit dans le noir? Voilà, quoi, c'est quoi qui vous retient l'attention d'emblée comme ça?
La liberté.
Ça fait plaisir.
La liberté de parole, d'oser, de... Oui, la liberté. La liberté dans l'esprit.
Mm. Le contenu de nos émissions, est-ce qu'il vous intéresse? Les sujets, est-ce qu'ils vous intéressent, justement?
Oui, bien sûr. Alors, ça, plus ou moins selon les chroniques, les moments. Voilà, c'est comme tout auditeur. Hein. Il y a des choses qui m'intéressent plus que d'autres. Mais en général, oui.
Et vous pensez diffuser ce film alors dans des salles, auprès des télévisions, etc.
Alors oui, le film a été, on va dire, préacheté, je pense que c'est comme ça que ça se dit, par la chaîne Weo.
Ah, d'accord, ok. Et ça va être diffusé dans des salles de cinéma, des associations.
Et j'espère beaucoup qu'après, on puisse le montrer en festival déjà, et ensuite qu'il soit pris par des gens qui ont envie de le diffuser pour que ça puisse être le soutien de débat. Parce que ce qui est le plus important, moi la télé ça m'intéresse pas énormément. Enfin, je devrais pas dire ça, mais c'est-à-dire les gens le voient une fois, décrochent, vont faire autre chose, etc. Mais quand on est dans une salle avec des gens qui sont intéressés par la problématique et qu'il y a un débat après, il n'y a rien de plus intéressant pour un film.
Et le film sur les entonnoirs, il va durer combien de temps?
Alors là, par contre, il est un peu formaté télé, on va dire. C'est 52 minutes parce que c'est bon. Voilà.
D'accord. Okay.
Johan, vous avez parlé de débat. Sur quoi pourraient porter les débats d'après ce film, en fait?
Sur la prise de parole.
D'accord.
Notamment, la prise de parole, et puis la citoyenneté, enfin, vos sujets phares, ici, vous montrez tout ce que vous avez dépensé, enfin, c'est idiot à dire, hein.
C'est pas si évident non plus, quand on voit certaines personnes.
Qui peuvent nous intéresser, nous bouleverser, voire nous remettre en question. Moi, je pense que depuis que je filme et depuis que je viens, plutôt, j'ai nombre d'a priori qui sont tombés et nombre de portes qui se sont ouvertes. Je dis pas qu'elles étaient très fermées, mais en tout cas, ça m'a surpris. Et voilà.
Est-ce que vous avez été difficile de réunir des fronts ou je sais pas ou de mettre en avant ce concept les entonnoirs pour en faire un film?
Ça a mis du temps, hein. Ça a mis 8-9 mois, mais c'est un peu la durée du film, de préparation d'un film. C'est toujours un petit peu comme ça que ça se passe. Ça a mis du temps. Là, c'est un temps raisonnable et je pense que j'ai réussi à faire comprendre ce que je voulais faire. Et du coup, ça a été plutôt... ça a été bien. J'ai pu monter le projet, en tout cas. Ça a été correctement vite.
Landine.
Oui, moi, je voulais savoir, avez-vous imaginé... lors de la projection, comment les animateurs des entonnoirs vont réagir?
Bah oui, non.
Oui, est-ce non. que c'est imaginable? Oui.
Non, voilà, c'est
d'abord,
pas imaginable.
Est-ce que c'est imaginable et si oui, comment?
Ce que je me suis surtout dit, c'est que la première fois serait pas la première fois. C'est que et ça, c'est pas vrai parce que c'est les entonnoirs où je suis en train de faire un autre film sur des jeunes Afghans. C'est vrai pour tous les films personnels que je fais, c'est-à-dire que le film, on va le voir ensemble avant. Parce que j'aime pas les réactions où on se découvre à l'image, même moi quand je vais me découvrir, là, ça va pas être forcément facile. Donc j'aime bien qu'on puisse savoir de quoi vous allez parler, de ce que j'ai gardé, qu'on en discute, que ce soit accepté, parce que vous aurez, vous, à affronter d'autres regards à ce moment-là. Donc c'est bien d'avoir... déjà digérer le sien de regard sur soi.
Bruno,
Marine, mais je vais remuer un peu le couteau dans la plaie dans le sens, non, c'est je dis ça de manière humoristique, dans le sens où je crois que vous avez été séduit par vous avez pris de l'esprit des entonnoirs, et je crois que le film ne dure que 52 minutes, ouais. Et donc il y aura des dilemmes parce qu'il y a des trucs très intéressants, mais il faudra couper quoi. Est-ce que je dis des bêtises ou
vous remuez le couteau dans la plaie? Non, tout à fait. Ça va être très difficile.
Florent.
Et le grain de folie, vous pensez à quoi? Vous entendez un grain de folie?
Alors, un grain de folie. grain de folie, je pense pas à la maladie mentale en soi.
Oui, c'est très général en même temps. Très général.
Oui, c'est juste un moment. Mais quand j'ai appris des choses là au fur et à mesure, je pense à deux choses. Je pense à une vraie liberté. Moi, je suis très impressionnée par plein de gens ici, tous certainement. Donc, je pense à deux choses, à cette grande liberté, et je dirais de quoi je suis impressionnée après, et aussi à la souffrance. Je pense à deux choses, aux deux choses qu'il faut, je pense, pas oublier l'un et l'autre. Donc vous m'impressionnez, oui, par votre liberté, des libertés, je pense aux poésies de Bruno, si je pouvais écrire autant que lui, je serais très heureuse.
Quel talent,
vous. Mais oui, voilà, je pense que on se libère de certaines contraintes sociales, de certaines obligations sociales.
Quelle est votre rubrique préférée? Vous avez une préférence pour telle ou telle rubrique?
Rubrique.
L'écologie, le sport, le sport ou autre, la santé, vous n'avez pas de préférence?
Je ne sais pas si j'ai une préférence. Alors, je suis très sensible à la poésie, puisque, bon, voilà. Aux chroniques sociales, parce qu'elles m'intéressent dans ce que je fais comme film, donc ça m'intéresse. Voilà.
Margot.
Pourquoi ça dure que seulement 52 minutes?
Si je savais. Alors, c'est des formats télévisuels. Il y a 13 minutes, 26 minutes, 52 minutes et très rarement 90 minutes. Mais ça, c'est réservé un peu aux grandes chaînes. Voilà. Je crois que c'est des raisons de pub pour qu'ils placent leur pub.
Pour que le cerveau soit plus disponible.
Ouais, puis on met moins de temps, comme ça. Mais encore, on a de la chance, ce ne sera pas coupé, parce que ce n'est pas le cas partout. Hein.
Florent, ouais, est-ce que vous n'irez pas oui ou en fait hein, vous avez jamais passé à la télé pour
non j'ai des films qui sont passés
interview ou quoi non
alors ça fait longtemps je fais parfois des interviews mais rarement avec un micro en fait radio je me souviens plus trop et ça fait très bizarre de m'entendre en fait j'ai même du mal à réfléchir pour tout dire
mais non non pas dire
vous
ça
vous êtes
pas
habitué
dire ça, pas dire ça. Margot, Bruno.
Et moi, j'ai une petite question à vous poser quand même, qui est est-ce que l'image est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que le fait d'être filmé aujourd'hui est quelque chose qui vous fait peur?
Un peu, mais...
Et voilà, comment... Voilà.
Moi, personnellement, je suis très beau, donc ça va.
Super.
Moi, je gagne...
Florent.
Je gagnerais pas à être connu, mais bon, bah, ça me dérange pas. Bien que je sois pas... Je gagnerais pas à être connu. Voilà.
Bruno. Moi, par rapport à ça, j'ai jamais été pris... depuis que je n'ai jamais aimé être pris en photo, être filmé, c'est pas mon truc, voilà, quoi. Mmh. Donc, voilà. Et puis, en deuxièmement, en plus, en vieillissant, quelque part, finalement, enfin, on a un problème... À des moments, à cause des clichés par rapport au vieillissement, on a des clichés par rapport à ça. Et bon, ben, je suis prisonnier de clichés comme tout le monde. Et par rapport à ça, le fait de me voir vieillir à des moments, bon, ben, c'est pas évident à assumer, quoi.
Johan.
Pour être sérieux sur les questions d'image, je pense que l'image, c'est important quand on a connu des troubles psychiatriques. Parce que c'est important, en fait, de dépasser ce que les gens peuvent avoir comme représentation sociale de ce qu'on peut être, en fait. Donc je pense que l'image, c'est important, mais quand on la dépasse, quand on dépasse ce que les gens peuvent penser de nous, en fait. Il faut que l'image, ce qu'on doit retenir d'important, c'est nous, l'identité qu'on donne à notre image. Et il faut essayer de forger une identité quand même valorisante et qui permet d'avoir le moral sans se laisser polluer par les gens qui sont... peut-être court d'esprit qui pourrait dire simplement réduire des personnalités comme on est ici autour de la table à des diagnostics. Ça, c'est pas bon, je pense.
Moi, je pense que bon, l'image ne me dérange pas, mais quand j'étais en souffrance physique, j'aurais pas voulu qu'on voit mon image. Parce que cette image de, entre guillemets, de déchéance, de dégradation un petit peu psychique, morale et même physique, parfois ça, on ressent aussi physiquement, ça m'aurait fait peur. Et voir mon image en plus à la télévision, ça m'aurait fait d'autant plus peur. Je crois que il faut être un petit peu, il faut penser comme Johan, il faut dépasser un petit peu les clichés, et il faut mettre en avant son image, parce que c'est une représentation de soi, de social, et qui est très importante à laquelle on doit se fier, quoi. Voilà. Autrement, vous avez fait des études de filmologie à Lille. Il y a une très grande, enfin, un professeur qui a été, comment dire, quelqu'un que j'ai respecté beaucoup à l'époque, Louisette Farigno, je crois.
Qui m'a professeur, oui.
Bah, donc, voilà, que j'ai envie pour longtemps, c'est une grande dame. Voilà.
Qui m'a appris le documentaire et c'est une grande dame du documentaire.
Et lorsque vous voulez faire un film, vous choisissez vous-même le film ou alors vous en discutez avec d'autres personnes ou... Ou alors vous êtes maître de votre choix. Est-ce que vous...
C'est vous qui choisissez le... Alors, ça dépend lesquels. Pour ceux dits de commande, par exemple, je travaille pas mal pour France 3. Là, je choisis pas mon sujet. Mais depuis quelques années, j'arrive à faire des films que je choisis, pour lesquels j'ai voilà la sensibilité. Et je dis, j'ai envie de se faire ce film et je convainc une équipe et puis des financeurs pour me suivre.
Et vous êtes depuis combien de temps vous avez fait équipe avec Philippe?
C'est deux qui sont derrière là.
Là, les deux zigotos.
Alors Philippe, ça fait un petit bout de temps, je pense.
Des mois, deux ans. Hein.
Non, ça fait, ça bon. Doit faire 10 ans quand même, hein, qu'on travaille un peu ensemble.
C'est pas rien, oui.
Et Jérôme, c'est le premier film qu'on fait ensemble. Parce qu'avant, je portais beaucoup la caméra, et depuis ce film-là, j'ai décidé de déléguer, et j'en suis très contente.
Jérôme, c'est un novice?
Jérôme, c'est un novice?
Oui.
Ah, pas du tout, non, il a une quinzaine d'années derrière lui aussi. Bon.
Et je voulais savoir, lorsque vous écrivez des films, c'est ça, on dit écrire un film?
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous avez la plume facile? Ou alors, c'est inventé, ce sont des histoires réelles que vous retracez?
Alors, il y a deux choses, parce que j'ai les deux parcours, en effet. Les deux commentaires, ce que je fais ici, donc c'est des histoires réelles. Mm-hmm. Et je fais de la fiction. Et là, la plume est beaucoup moins facile, enfin, elle devient... Elle se facilite avec le temps, parce que j'essaye de me libérer. Hein. Donc j'ai deux choses, et je pense toujours dans le documentaire, en fait, ce qui est assez beau, c'est qu'on écrit, on essaye d'écrire des choses qui vont se passer, on sait jamais ce qui va se passer, en fait. Mais en général, il se passe toujours beaucoup plus que ce qu'on a imaginé. Et en fiction, on peut se libérer sur l'imagination, et imaginer n'importe quoi, mais il va souvent se passer un peu moins, parce qu'il y a des moyens techniques, qu'on peut pas faire n'importe quoi, et voilà.
Eh ben, je vous remercie, Marine. Et bon, on vous dit bonne chance pour
votre
film.
J'espère qu'on va faire un bon film ensemble et que j'arriverai à donner ce que le mieux.
Les entonnoirs.
Alors maintenant, nous allons passer au poème de Bruno.
Alors c'est un poème qu'on va lire à deux. Bruno, vous pouvez expliquer?
Oui, parce que vu l'espace, c'est mon domaine en tant que poète. Bah oui, parce que le poète a la tête dans les étoiles, c'est évident, quoi. Donc les voyages dans la tête, dans l'espace, c'est mon truc. Et par rapport à ça, j'ai fait un poème où j'imaginais que je devais rendre des comptes par rapport à un interrogatoire. Donc voilà, donc j'ai fait ce poème, très très stylisé, qui date de 1993, qui est dans un recueil qui s'appelle Passeport pour la poésie. Un vieux recueil, parce que malheureusement tout vieillit, mais sauf l'art, je crois que voilà.
Quoi. Absolument.
Donc c'est pour ça qu'on est artiste aussi, parce que peut-être. Enfin,
tout
voilà.
À fait.
Donc on va le lire à deux parce que c'est plus commode pour il va mieux passer, je crois, si on le lit à deux. Blandine va poser des questions, je réponds, puis à la fin elle va donner son verdict. Voilà.
Alors interrogatoire. Quelle est ta nationalité, poète ?
Je suis humain.
Quelle est ta religion ?
Je vénère la vie.
Quel est ton pays ?
La poésie.
Que fais-tu, poète ?
Je narre mes envies.
Où vas-tu ?
Vers le plaisir.
Quel est ton souhait ?
Arrêter la connerie.
Pourquoi es-tu différent ?
Je devance le temps.
Pourquoi es-tu charmant ?
Je suis avant tout un amant.
Pourquoi es-tu seul ?
Parce que je suis fou et incompris.
Pourquoi fuis-tu ?
Pour ne pas être bouffé.
Pourquoi voles-tu ?
Parce que je suis libre.
Pourquoi écris-tu ?
Pour décrire mes voyages.
Pourquoi vis-tu ?
Pour anéantir la barbarie.
Pourquoi va-t-on te tuer ?
Parce que je fais peur.
Pourquoi t'aime-t-on ?
Parce que je suis un sourire.
Va, poète. On ne peut rien contre toi. Ta raison, c'est l'univers. Ta mort sera vaincue par l'éternité de tes vers.
Oh, bravo.
Un commentaire ? Un commentaire, peut-être. C'est un très beau poème, Bruno, hein, sur la vie, sur la vie d'un poète, quoi. C'est la liberté, c'est charmant.
Mais je crois qu'aujourd'hui, les poètes, face à ce que j'appellerais au phénomène Big Brother, c'est-à-dire la prison mentale à la tête de tous les gens, les poètes libèrent la tête, quoi. C'est-à-dire que appel d'air frais à la tête, la peu de poésie. Et je crois que c'est ça. Aujourd'hui, les poètes servent à ce que j'appellerais décrasser les neurones. Voilà.
C'est vrai. Donc là, nous allons passer à une pause musicale de Margot et qui va nous parler de Whitney Houston.
Oui, bonjour, chers auditeurs. Donc voilà, je vais parler de Whitney Houston. Donc elle est décédée à l'âge de 48 ans. Elle était tombée dans l'alcool et la drogue, bien sûr. Et c'était une artiste et une comédienne. En même temps, elle a joué dans Bodyguard, si vous vous rappelez. Et elle a fait des succès énormes. Pour moi, c'est une diva qui restera éternelle dans notre cœur et dans notre mémoire. Parce que cette artiste et cette comédienne, je trouve qu'elle est partie trop vite. Pour moi, c'est une personne qui me restera. Voilà. Donc, on va passer un morceau de Whitney Houston. Donc, je laisse Ben. Voilà. Oh oui, why not? Voilà.
merci, chers auditeurs, chers auditrices, de nous avoir écoutés pour cette émission.
C'était voilà. La fin de cette émission et on vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.
Soyez fidèles et bientôt.
L'émission Les Entonnoirs.
Bonne merci. Journée.
Au revoir.
Vous savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
Écoutez les entonnoirs en podcast sur le blog des entonnoirs http://lesentonnoirs.over-blog.fr.